Chapitre 4. Si Bachelet aimait à raconter ses affaires à ses amis, c'était à charge de réciprocité. Il fallait que, bon gré mal gré, ses amis lui racontassent les leurs. Aussi, depuis la première représentation d'Ella, n'abordait-il pas Gaston sans lui adresser la même question. Hésite. Quand Gaston, interrogé et pressé de questions, lui raconta cette promenade, le mécontentement revint. Si elle les avait acceptés, vos chevaux, où les aurait-elle mis? Ça mange, ça loge quelque part, les chevaux. Vouliez-vous qu'elle les lâchât dans le jardin du Luxembourg? Si elle avait laissé paraître qu'elle était disposée à les accepter, le reste serait venu. Cela peut durer longtemps ainsi. J'en serais heureux. Je ne dis pas non. Je comprends très bien qu'il soit amusant de filer l'amour sentimental avec une jolie fille comme Zite, mais vous laissera-t-on filer cet amour aussi longtemps et aussi tranquillement que vous voulez? Zite n'est plus la petite comédienne de Noisy que personne ne connaissait, son succès l'a mise en vue. Tout Paris a les yeux sur elle, et dans ce tout Paris, ne se trouvera-t-il pas quelqu'un pour vous la souffler? Qui sait si vous n'avez pas déjà 10 concurrents? Devez-vous laisser perdre l'avance que vous avez sur eux? Notez que, si cela arrivait, vous n'auriez pas à vous plaindre, puisque vous ne vous seriez pas mis en avant. Attendrez-vous qu'elle vienne vous chercher? Je crois que vous attendriez longtemps. Conclusion. Il y a une chose qu'une femme ne refuse jamais, c'est un bijou qui, en outre de cet avantage d'être toujours accepté, a encore cet autre d'exprimer d'une façon précise ce qu'on veut lui faire dire. Vous envoyez une bague de 50 louis, vous êtes un homme de goût qui manifeste son admiration pour l'artiste d'une façon délicate. Vous envoyez un bracelet de 20 à 30 000 francs, vous êtes un monsieur qui fait à la femme une déclaration pleine de promesses. Nous disons donc rien, comme vous voudrez. Et Bachelet, dépité, n'insista pas. Mais si Gaston n'avait voulu rien dire, il n'en avait pas moins agi. Le lendemain, dans l'après-midi, un jeune homme, à la tenue assez élégante, s'était présenté à l'hôtel des Médicis et avait demandé Mademoiselle Duchâtelier, qui, justement, était absente à ce moment. Il avait alors insisté pour savoir à quelle heure elle rentrerait, et Madame Crozat était intervenue avec l'empressement qu'elle mettait toujours à s'occuper des affaires de Zite. Mademoiselle Duchâtelier est sortie depuis une heure pour faire une promenade dans le Luxembourg avec Monsieur Crozat. Elle va rentrer. Mais s'il y a urgence, on peut l'envoyer chercher. De la part de qui? De la part de Messieurs March et Chabert. March et Chabert, les grands joailliers de la rue de la Paix. C'était un bijou qu'un commis apportait à Zite. Elle avait fait asseoir le commis dans son bureau et elle se demandait comment l'interroger pour savoir qui envoyait le bijou lorsque Zite rentra avec Crozat. « Ah, voici Mademoiselle Duchâtelier !» Le commis s'était levé et venant à Zite, il lui avait tendu un paquet. « Voici ce que je suis chargé de vous remettre de la part de messieurs March et Chabert. » Ignorante de la vie parisienne, Zite n'avait jamais entendu parler de messieurs March et Chabert et elle regardait le commis ainsi que le paquet sans rien comprendre. Il le lui mit dans la main et avant qu'elle fût revenue de sa surprise, il salua et sortit. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » demanda-t-elle à Madame Crozat. « Un envoi de messieurs March et Chabert, les grands joailliers de la rue de la Paix. Mais je n'ai rien demandé à des joailliers. Mais je n'ai rien demandé à des joailliers. Quelqu'un l'aura demandé pour vous. Vous devez bien comprendre qu'il s'agit d'un bijou qui vous est offert. Pourquoi ne serait-ce pas votre directeur? Moi, après mon grand succès dans Agathe, j'ai reçu de cette façon, par un bijoutier, un collier que mon directeur m'offrait. Ouvrez donc !» Zite tenait toujours dans ses mains le paquet que le commis lui avait remis. Elle défit un cordon et, du papier qu'elle développa, sortit un écrin en maroquin blanc écrasé, marqué « ZD ». « Un bracelet ?» s'écria Madame Crozat, qui ne pouvait pas se méprendre à la forme de l'écrin. C'était en effet un bracelet, un simple fil d'or avec un gros rubis entouré de diamants. « C'est un rubis, un beau rubis foncé, un rubis d'Orient !» s'écria Madame Crozat. « Évidemment, cela ne vient pas de votre directeur. Mais regarde donc, Monsieur Crozat, c'est un cadeau princier !» « Excusez-moi, dit Crosa, je n'ai point de connaissances lapidaires et j'ignore si complètement la science des gemmes que je prendrais un bouchon de carafe pour un diamant. » Mais Madame Crosa n'ignorait point, comme son mari, la science des gemmes et, en inclinant la main de Zit qui tenait l'écrin, elle faisait jeter des feux aux diamants et aux rubis qui éclairaient de leurs rayons les profondeurs sombres du bureau. « Il doit y avoir une carte dans l'écrin. » On chercha. Il n'y avait pas de carte, seule l'adresse du bijoutier se détachait en lettres d'or sur le velours blanc de la doublure. « Je suis sûre que c'est Monsieur Chamontin. J'en serai désolée. Parce que ?»« Parce que je dois d'être ce que je suis à Monsieur Chamontin et qu'il m'en coûterait beaucoup de lui renvoyer son cadeau. Monsieur Chamontin n'a pas le droit de me faire un cadeau de cette valeur et il faut toute la reconnaissance qu'il m'a mise au cœur pour que je ne pleure pas son offense. Mon enfant, les hommes s'attachent par les cadeaux qu'ils font et les femmes qui veulent se faire épouser ont deux moyens à leur disposition, se donner ou se refuser. On ne sait pas encore lequel des deux est le meilleur, on ne le saura jamais, puisque le résultat dépend du caractère de l'amoureux. À quoi pensez-vous ? Moi, me faire épouser par M. Chamontin ? Comment pouvez-vous imaginer que je fasse un pareil calcul ? S'écria Zit, suffoqué. On en a vu bien d'autres. Des princes numérotés dans le Gotha ont épousé des écuyères. M. Chamontin n'est pas prince, et vous ? Quoi qu'il en soit, je n'ai qu'une chose à faire, c'est d'aller chez ces bijoutiers et de leur faire dire de qui vient le cadeau. Voulez-vous m'accompagner ? Madame Crosa accepta et par l'omnibus de Clichy, elles s'en allèrent rue de la Paix, Zit tenant bien serré dans la main l'écrin qu'elle avait enveloppé. Quand elles entrèrent dans le magasin, le commis qui avait apporté l'écrin vint au-devant d'elles. « Pourrais-je parler à messieurs Marche et Chabert ?» dit Zit. Presque aussitôt, arrivant en saluant, un personnage au sourire engageant et important à la fois, élégamment habillé d'un pantalon gris et d'une redingote boutonnée, posant sur une cravate à pois son menton rasé de près. « Mademoiselle Duchâtelier, du théâtre de l'Odéon, » dit-il en saluant. Zit fit un signe affirmatif. « Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? On rencontre rarement un rubis aussi pur, bien que nous en ayons encore deux d'une eau aussi belle et qu'on pourrait monter un bouton d'oreille. » Il avait ouvert l'écrin et pris le bracelet qu'il faisait scintiller. « Pouvez-vous me dire, monsieur, à qui vous avez vendu ce bijou ?» demanda Zit. « Je ne crois pas qu'il y ait indiscrétion à vous répondre. On ne m'a pas demandé le secret. C'est à monsieur Gaston Chamontin. » Zit resta un moment troublée, mais elle voulut en savoir davantage. « Et pouvez-vous me dire quelle est sa valeur ? » demanda-t-elle. « Je suis prêt à le reprendre pour 25 000 francs. » Le visage de Madame Crosa s'éclaira d'un sourire que le bijoutier surprit et qui lui fit croire que les boutons d'oreilles seraient vendus le lendemain, car pour lui, cette reine de théâtre était incontestablement Madame Duchâtelier mère. « Voulez-vous bien m'envelopper l'écrin ? » dit Zit. « Je vous l'enverrai ce soir. Je vous remercie, je désire l'emporter. » « Vous voyez que je ne me trompais pas, » dit Madame Crosa en riant, lorsqu'elles furent dans la rue. « Le rubis est admirable. » Zit ne répondit pas et ce fut seulement en rentrant à l'hôtel qu'elle s'expliqua. « J'ai un service à vous demander, » dit-elle à Crosa, qui, dans le bureau, lisait un bouquin d'apparence vénérable. « Vous savez que je suis tout à vous et que je suis toujours heureux de pouvoir vous obliger. »« C'est d'aller au parc Monceau reporter cet écrin à M. Chamontin. »« Vous voulez le rendre ?» s'écria Mme Crosa. « C'est un objet de trop grande valeur pour que je puisse le confier à un commissionnaire et, d'autre part, pour toutes sortes de raisons, il importe qu'il soit remis à M. Gaston Chamontin lui-même. » « Il est certain qu'il serait mauvais que le papa ouvrit l'écrin, » dit Crosa en riant. « Mais avez-vous réfléchi, mon enfant ?» dit Madame Crosa, « que lui renvoyer ainsi son cadeau, c'est très probablement vous fâcher avec lui ?»« J'en serais désespérée, » répondit Zit, avec un accent vibrant qui frappa Madame Crosa. « Mais si cela arrive, au moins ne me méprisera-t-il pas ?»« Décidément, je crois que vous avez raison d'agir ainsi, » dit Madame Crosa après un moment de réflexion. « Sans doute, le moyen est aventureux, mais après tout, il peut réussir. » Réussir à quoi? Ce fut la question qui vint aux lèvres de Zite, mais elle ne la formula point, car elle en avait une autre plus sérieuse qui l'angoissait. Pouvait-elle renvoyer cette écrainte tout simplement, brutalement, sans l'accompagner d'un mot? Si elle écrivait, que pouvait-elle dire? Où demeure M. Chamontin? Demanda Crosa. Tout ce que je sais, c'est que son hôtel nouvellement construit est un des plus beaux du parc Monceau, sur lequel donne son jardin. Il me semble qu'avec cela, vous pourrez trouver. Il allait partir. Elle le retint. « Je voudrais mettre un mot dans l'écrin, » dit-elle. Elle s'assit au bureau de Crosa et, ayant pris une feuille de papier à lettres dont elle déchira un petit carré, elle écrivit « Soyez assurés que mes sentiments de profonde gratitude sont aujourd'hui ce qu'ils étaient hier. » Zite. Quand l'heure sonna pour Zite d'aller au théâtre, Crosa n'était point revenue. Ce soir-là, au lieu de descendre la scène lentement à petits pas en faisant son entrée, elle la descendit plus vite qu'à l'ordinaire, anxieuse et impatiente de voir si elle trouverait Gaston à son fauteuil, mais elle ne l'aperçut point. Pour la première fois depuis qu'elle jouait là, le fauteuil était vide. Alors, il fallut bien que l'espérance vague qu'elle avait gardée malgré tout s'évanouît, il ne viendrait pas. Le trouble qu'elle en éprouva fut si vif que, sans le souffleur, elle aurait manqué de mémoire. « Vous êtes souffrante ce soir ?» lui demanda Manuel en rentrant dans la coulisse. Ce mot la rappela à la réalité et elle acheva la pièce avec sa sûreté de tous les soirs. Quand elle rentra à l'hôtel, Crosa et Madame Crosa l'attendaient dans le bureau. « J'ai rencontré M. Chamontin, » dit Crosa avant qu'elle l'eût interrogé, « et je lui ai remis l'écrin. En le voyant, il a sans doute reconnu, car il a paru mécontent, ou plutôt, pour me servir du mot propre qui traduise exactement mon impression, peiné. Alors il m'a demandé si je n'avais rien à lui dire. À quoi j'ai répondu que vous aviez mis un mot dans l'écrin. Je croyais qu'il allait l'ouvrir, il n'en a rien fait. Et après m'avoir remercié, il m'a reconduit jusqu'au vestibule, qui est bien la pièce la plus monumentale dans ce genre que j'ai vue. Figurez-vous un hall, comme disent les Anglais, vitré de vitraux anciens. Mais Zite n'écouta pas la description de Crosa, elle le remercia et monta à son appartement. Chose étrange, il lui sembla que plusieurs marches s'enfonçaient sous ses pieds. Machinalement, sans penser à se déshabiller, elle se mit à tourner dans sa chambre, puis tout à coup se laissa tomber sur une chaise et une défaillance lui noya le cœur. Elle l'aimait. Ce qu'elle n'avait pas voulu reconnaître jusque-là, il fallait qu'elle se l'avouât maintenant. Elle l'aimait de cet amour passionné dont elle avait parlé à Joseph. Elle était à lui et elle ne le verrait plus.